Pilier de l'île Adam, propos d'au-delà, l'amour sublime. Monsieur Évariste Rousseau-Latouche, député de l'un de nos départements les plus éclairés, siégeait au centre-gauche de notre Parlement. Au physique, c'était un de ces hommes qui ont toujours eu l'air d'un oncle. 45 ans environ, l'encolure un peu molle, résistante pourtant, la chair des joues offrait quelques menues pouffissures, l'âge ayant ses droits. Mais il en humectait chaque matin de crèmes diverses la coupe rose. Le nez long et froid, les yeux grisâtres, la lèvre inférieure franche, rouge, un peu épaisse, la supérieure très fine et formant la ligne quatrième de la carrure du menton. La voix bien timbrée et précise. Brun encore, mais ceci grâce à ces innocentes applications de teinture qui sont de mode. C'était le type de l'homme de nos jours, exempt de superstition, ouvert à tous les aspects de l'esprit, peu dupe des grands mots, cubique à ses projets financiers, industriels ou politiques. En 1876, il avait épousé Mademoiselle Frédérique d'Alleprenne. La tutrice de cette orpheline de 17 ans la lui ayant accordée à cause de l'extérieur, à la fois sérieux et engageant, de cet honnête homme. Et puis les situations se convenaient. Rousseau-Latouche avait fait sa fortune dans les lins. Il s'était enrichi que par le travail, et aussi grâce à quelque peu de savoir-faire. Sans parler de certaines circonstances dont il est convenu que les sots seuls négligent de profiter. Tout le monde l'estimait donc de l'estime actuelle. Au moral, il avait les idées françaises d'aujourd'hui, les idées ayant cours, excepté en quelques négligeables esprits. Ses convictions se résumaient en celles-ci. Premièrement, qu'en fait de religion, tous les cultes imaginables ayant eu leurs fervents et leurs martyrs, le christianisme, en ses nuances diverses, ne devait plus être considéré que comme un mode analogue de cette mysticité qui s'efface d'elle-même, brume traversée par le soleil levant de la science. Deuxièmement, qu'en fait de politique, le régime royal en France et ailleurs, ayant fait son temps, s'annule également de soi-même. Troisièmement, qu'en fait de morale pratique, il faut tout bonnement se laisser vivre selon les règles salubres de l'honnêteté, ceci autant que possible, sans être hostile au bien, c'est-à-dire au progrès. Et quatrièmement, qu'en fait d'attitude sociale, le mieux est de laisser en souriant pérorer les gens en retard, dont le cerveau dépend d'une pondération calme et dont les derniers groupes tendent à disparaître comme les peaux rouges. Bref, c'était un être éminemment sympathique, ainsi que le sont de nos jours presque tous ceux qui, les mains vides mais ouvertes, sont doués d'assez empire sur eux-mêmes pour pouvoir prononcer, non seulement sans rire, mais avec une sincérité d'accent convaincante, le mot « fraternité », c'est-à-dire le mot le plus lucratif de notre époque. Madame Rousseau-Latouche, née Frédérique d'Alleprenne, en tant que nature, différait de son mari. C'était une personne atteinte d'âme, un être d'au-delà, joint à un être de terre. Elle était un genre de beauté à la fois grave, exquis et durable. Il ressortait de sa personne une sympathie pénétrante, mais qui humiliait un peu. Le regard chaste et droit de ses yeux bleus éclairait intérieurement sa transparente pudeur à pâleur, et la grâce de son affabilité charmait, bien qu'un peu glacée, à cause des gens dont le sourire trop volontiers s'affine. En dépit des 30 ans dont elle approchait, elle pouvait inspirer les sentiments d'un amour auguste, d'une passion noble et profonde. Quelque surpris que fussent à sa vue les visiteurs ou même les passants, il était difficile de ne pas se sentir moins qu'elle en sa présence. De ne pas rendre hommage à la simplicité si tranquillement élevée de cet être d'exception perdu en un milieu d'individus affairés. Dans les soirées, elle semblait, malgré son évidente bonne volonté, si étrangère à son entourage que les femmes la déclaraient supérieure avec un demi-sourire qui serrait la transition pour parler de choses plus graves. Ses goûts étaient incompréhensibles, extraordinaires. Ainsi, musicienne, elle n'aimait exclusivement et sans jamais une concession que cette musique dont l'aile porte les intelligences bien nées vers ces régions suprêmes de l'esprit qui illuminent la persistante notion de Dieu. D'inespérable immortalité en cette incréée lumière où toute substance mortelle est oubliée. Elle ne lisait que ces livres si rares, où vibre la spiritualité d'un style pur. Peu mondaine, malgré les exigences de sa position, c'était à peine si elle acceptait de figurer en d'inévitables et officielles fêtes. Taciturne, elle préférait l'isolement, chez elle, dans sa chambre, où sa manière de tuer le temps consistait le plus souvent à prier, en chrétienne simple, pénétrée d'espérance. Privée d'enfants, ses meilleures distractions étaient de porter elle-même à des pauvres quelque argent, des choses utiles, ceci le plus possible et en calculant de son mieux ses dépenses, car évariste, sans précisément l'entraver ici, serrait, devant toutes ses exigences, actions et non sans sagesse, les cordons de la bourse. M. Rousseau Latouche, en conservateur sagace, en esprit éclectique aux vues larges, comprenant toutes les aberrations des êtres non parvenus encore à sa sérénité intellectuelle, non seulement trouvait très excusable, en sa chère Frédérique, cette mysticité qu'il qualifiait de féminine, mais secrètement n'en était point fâché. Ceci pour plusieurs motifs concluants. D'abord parce que si ce genre de goût témoignait en effet d'une race noble, le mieux est aujourd'hui d'absoudre avec une indulgence discrète, une déférence même, ces particularités d'atavisme destinées à s'atténuer avec les générations. On ne peut extirper sans danger ces espèces de taches de naissance qui d'ailleurs donnent du piquant à une femme. Puis, tout en reconnaissant dans soi-même la fondamentale frivolité de pareilles inclinations, on ne doit pas oublier qu'en de certains milieux, influents encore, et dont les préjugés sont par conséquent ménageables, on peut être fier, négligemment, de laisser constater en sa femme ces travers sacrés, flatteurs même, et qu'ainsi l'on utilise. C'est une parure distinguée. Ensuite, cela présente, en attendant qu'il soit trouvé mieux, des garanties d'honnêteté conjugale des plus appréciables, aux yeux surtout d'un homme d'État absorbé par des labeurs d'affaires, de législature, etc., qui enfin n'a pas le temps de veiller avec soin sur son foyer. En somme donc, ces diverses tendances d'un tempérament imaginatif, constituant à son estime, en sa chère femme, une sorte de préservatif organique, une égide naturelle contre les nombreuses tentations si fréquentes de l'existence moderne, Évariste, bien qu'hostile en principe à leur essence, avait fait en bon opportuniste la part du feu. Que lui importait après tout? Vivions-nous pas en un siècle de pensée libre? Eh bien, du moment où cela non seulement ne le gênait pas, mais, redisons-le, lui pouvait être utile, flatteur même. Entre-temps, pourquoi ce clairvoyant époux eût-il risqué sa quiétude en essayant sans profit de guérir sa femme de cette maladie incurable et nature qu'on appelle l'âme? Tout pesé, ce vice de conformation ne lui semblait pas absolument rédhibitoire. Presque toute l'année, les Rousseau Latouche habitaient leur belle maison de l'avenue des Ternes. L'été, aux vacances de chambre, Évariste emmenait sa femme en une délicieuse maison de campagne aux environs de Sceaux. Comme on n'y recevait pas, les soirées étaient parfois un peu longues, mais on se levait de meilleure heure. Un peu de solitude, cela retrempe et rassoit l'esprit. De grands jardins, un bouquet de bois, de belles attenances entouraient cette propriété d'agrément. N'étant pas insensible au charme de la nature, M. Rousseau Latouche, le matin, vers 7 heures, en veston de coutil à boutonnière enrubanée et le chef abrité d'un panama contre les feux de l'aurore, ne se refusait pas, tout comme un simple mortel, à parcourir, le sécateur officiel en main, ses allées bordurées de rosiers, d'arbres fruitiers et de moutonnières. Puis, jusqu'à l'heure du déjeuner, il s'enfermait dans son cabinet, il dépouillait sa correspondance, lisait en ses journaux les échos du jour, et songeait mûrement à ses projets de loi, qu'il s'efforçait même de trouver urgent, étant un homme de bonne volonté. Pendant la journée, madame s'occupait des nécessiteux que le curé de la localité lui avait recommandées, ce qui, avec un peu de musique et de lecture, suffisait à combler les 6 semaines que l'on passait dans cet exil. Vers la fin de juillet, l'an dernier, les Rousseau-Latouche reçurent à l'improviste la visite exceptionnelle d'un jeune parent venu de Jumièges, la vieille ville, et venu pour voir Paris, sans autre motif. Peut-être s'y fixerait-il, selon des circonstances, si difficiles à prévoir aujourd'hui. M. Bénédicte d'Allebren se trouvait être le cousin germain de Frédéric. Il était plus jeune qu'elle, d'environ 6 années. Ils avaient joué ensemble autrefois chez leurs parents, et sans être revus depuis l'adolescence, ils avaient toujours trouvé, dans leurs lettres de relation, entre famille, un mot aimable, les appelant l'un à l'autre. C'est un jeune homme assez beau, peu parleur, d'une douceur tout à fait grave et charmante, de grande distinction d'esprit et de manière parfois parfaite, bien que M. Rousseau-Latouche le trouvât, mais avec sympathie, un peu provincial. Or, par une coïncidence vraiment singulière, étant surtout donné que la rareté de ces sortes de caractères, la nature intellectuelle de M. Bénédicte d'Allebren se trouvait être pareille à celle de Frédéric. Oui, le tour essentiellement passif de son esprit l'avait malheureusement conduit à certains dédains des choses terre-à-terre et à l'amour assez exclusif des choses d'en haut. Ceci au point que sa fortune, bien que des plus modestes, lui suffisait et qu'il ne s'ingéniait en rien pour l'augmenter, ce qui confinait à l'imprévoyance. Bon, ce n'était pas qu'il fût né poète, il l'était plutôt devenu, par un ensemble de raisonnements logiques et, disons-le tout bas, des plus solides, à la vue de toutes les feuilles sèches dont se payent jusqu'à la mort la plupart des individus soi-disant positifs. S'il acceptait de croire un peu par force aux réalités relatives dont nous relevons tous, bon gré ou malgré nous, c'était avec un enjouement qu'il essaie de deviner la mince estime qu'il professait pour la tyrannie bien momentanée de ces choses. Enfin, il s'était de très bonne heure, et ce grâce à des instincts natals, détaché de bien des ambitions, de bien des désirs, et ne reconnaissait, pour méritant le titre de sérieux, que ce qui correspondait au goût sagement divin de son âme. Hâtons-nous d'ajouter que, dans ses relations, c'était un cœur d'une droiture excessive, incapable d'un adultère, d'une lâcheté, d'une simple délicatesse, et que cette qualité, comme le rayon d'une étoile, transparaissait de sa personne. Quelque réfractaire qu'il se jugeât quand l'action violente s'il eût découvert au monde telle belle excuse à défendre qui ne fût d'illusion qu'à demi. Certes, il se fût donné la peine d'être ce que les passants appellent un homme, et de façon même, probablement, à démontrer sans ostentation le néant, l'incapacité de ceux qui l'eussent raillé sur les nuages de ses idées généreuses. Mais cette belle cause, il ne l'entrevoyait guère au milieu de farouches conflits d'intérêts qui, de nos jours, étouffent d'avance, sous le ridicule et le dédain, tout effort tenté vers quoi que ce soit d'élevé, de désintéressé, de digne d'être. S'isolant donc en soi-même avec une grande mélancolie, c'était comme s'il se fût fait naturaliser d'un autre monde. Bénédicte reçut un accueil amical chez les Rousseau-Latouche. On s'ennuyait parfois. Ce jeune homme représentait au moins pour Évariste quelques heures plus agréables, une distraction. Puis il était de la famille. M. Dalbren dut céder à l'invitation formelle de passer les vacances avec eux. En quelques jours, Frédéric et Bénédicte, s'étant reconnus du même pays, se mirent naturellement à s'aimer d'un amour idéal, aussi chaste que profond, et que sa candeur même légitimait presque absolument. Certes, ils n'étaient pas s'attristent sans tristesse, mais leur sentiment était plus haut que ce que leur causait cette tristesse. Oh, cependant, ne pas s'être épousé, quel éternel soupir, quel morne serrement de cœur. L'épreuve était lourde. Sans doute ils expiaient quelque ancestral crime. Il fallait subir sans faiblesse la douleur que Dieu leur accordait, douleur si rude qu'ils pouvaient se croire des élus. Rousseau-Latouche, un homme de tact, s'aperçut très vite de ce nébuleux sentiment dont leurs organismes moins équilibrés que le sien les rendaient victimes. Comment l'eussent-ils dissimulé? C'était lisible en leur innocence même, en la réserve qu'ils se témoignaient. Évariste, nous l'avons donné à entendre, était un de ces hommes qui s'expliquent les choses sans jamais s'emporter, son calme énergique lui conférant le nom d'étiqueter toujours d'une manière sérielle un fait quelconque, sans l'isoler de son ambiance, et par conséquent de le dominer en utilisant même, s'il se pouvait, dans la mesure du convenable, bien entendu. Si donc son premier mouvement instinctif immédiat fut de congédier Bénédicte sous un prétexte poli, le second fut tout autre, après réflexion, tout autre. Étant donné, en effet, ces deux natures phénoménales, il fallait bien se garder, au contraire, de renforcer en le contrecarrant, en ayant même l'air de le remarquer, cette sorte d'angélisme futile, ce cousinage idéal dont il recevait à lui-même de dédaigner d'être jaloux du moment où il en tenait solidement l'objet réel. Leur honnêteté qu'il sentait impeccable le garantissait. Dès lors, il ne pouvait qu'être flatté, dans sa vanité d'homme de 45 ans, d'avoir pour femme une personne qu'un jeune homme aimait et aimerait en vain. La qualité de leur inclination réciproque, il la comprenait exactement. C'était une sorte d'affectif, de morbide et vague penchant, éclos de trop mystiques aspirations, et sans plus de consistance matérielle que le vertige résulté d'un duo de musique allemande, chanté avec une exagération de laisser-aller. Il lui suffirait, à lui, au Rousseau-Latouche, d'un peu de circonscription pour circonscrire ce prétendu amour dans ces mêmes nuages d'où il émanait, et paralyser d'avance, en lui, toutes échappées vers nos pâles mais importantes réalités. Il était bon de temporiser. Rien d'alarmant, c'est de fumée juvénile qui se dégageait d'un couple de cerveaux ébriolés par une manière de tour de valse dans l'azur et qui se disséminerait de soi-même au vent des désillusions de chaque jour. Tous deux étaient, à n'en pas douter, d'une intégrité de conscience aussi évidente que la transparence du cristal de roche. Ils étaient incapables d'un abus de confiance, d'une déshonnête chute en une grossièreté sensuelle, enfin d'un adultère, pourvu bien entendu que le hasard ne vint pas les tenter outre mesure. Son mariage aurait été aussi désespérant que sacré, car leur nature était de prendre au sérieux ces sortes de choses, au point qu'ils eussent rougi de s'embrasser en cachette, comme d'une insulte mutuelle. Dès lors, tous deux ne méritaient au fond, avec son estime, qu'un doux sourire. Il était l'homme, et eux étaient des enfants, des bébés ivres d'intangibles. Conclusion, la ligne de conduite que lui dictaient les plus élémentaires prudences et le sentiment de sa rationnelle supériorité devait être de fermer les yeux, de ne rien brusquer, de laisser enfin s'user, faute d'aliments physiques, ce platonique amour qui, supposait-il, si nulle observable occasion, nulle circonstance irrésistible ne leur était offerte, pour ainsi de force, n'avait rien de vraiment sérieux, et qu'au surplus, les souffles hivernaux de la rentrée à Paris, en admettant par impossible qu'il durât jusque-là, dissiperaient comme un mirage. Il en restait entre eux, trois, qu'un innocent souvenir de villégiature, agréable même à tout prendre. Cependant, les soirs, dans les promenades au jardin, au déjeuner, au dîner, surtout dans le salon, lorsqu'on s'y attendait en causerie, quelle que fût la retenue froide qu'il se témoignait, Frédéric et Bénédicte semblaient se complaire à ne parler qu'idéalité, de surexistence par-delà le trépas, d'union future, de nuptiale fusion céleste, ou de choses de l'art très élevé, chose qui, pour M. Rousseau Latouche, n'était au fond que des rêveries, des jeux d'esprit, du clinquant. En vain cherchait-il de temps à autre à amener la conversation sur un terrain plus solide, le terrain politique, par exemple. On l'écoutait, certes, avec la déférence qui lui était due, mais s'il s'agissait de lui répondre, on ne pouvait que se reconnaître trop peu versé en ces questions graves, et aussi d'une intelligence trop insuffisamment pratique pour se permettre de risquer un avis en cette matière. De sorte que, par d'insensibles fissures, la conversation glissait entre ses mains, cependant bien serrées, du conservateur, et s'enfuyait en rêve mystique. Bref, ils avaient l'air de fiancés, que séparait un tuteur opiniâtre, et qui, à force d'ennui, devenus insoucieux de se posséder sur la terre, faisaient naïvement leur mal devant lui, Rousseau Latouche, député du centre, pour les sphères effarées. C'était l'absurde, s'installant dans la vie réelle. Ceci dura 15 longs jours, au cours desquels Évariste, tout en ayant qu'à se louer de sa femme et de Bénédicte au point de vue des convenances, on était tout doucement arrivé à se sentir comme étranger chez lui. Il ne pouvait s'expliquer ce phénomène, trouvant au-dessous de sa dignité de prendre au sérieux l'impalpable. Bien souvent, il avait eu de nouveau la violente démangeaison de congédier Bénédicte, poliment, mais en ayant soin d'isoler Frédéric de cette scène d'adieu, qui, présumait-il, ne se fut point terminée sans tiédeur. Et toujours le motif qu'il avait maintenu dans l'espèce de neutralité modérée dont il avait préféré l'opinion, dès le principe, n'était autre que la dédaigneuse pitié qu'il ressentait, disons-nous, pour cet immatériel amour et qu'il eut l'air de reconnaître comme valable, en s'en effarouchant. Oui, c'était un homme trop soucieux de dignité morale pour accéder à cette concession risible. À de certains moments, il en venait à regretter de ne pouvoir vraiment leur adresser aucun reproche, fondé sur la moindre inconséquence de leur part. C'est qu'il avait affaire non pas à des amoureux de la vie, mais à des amants de la vie. À la fin, ceci l'énerva jusqu'à refroidir l'amour que Frédéric lui avait inspiré si longtemps. Les êtres trop équilibrés ne pardonnent pas volontiers l'âme lorsque, par des riens inintelligibles pour eux, mais très sensibles, elle les humilie de son inviolable présence. L'âme prend alors à leurs yeux les proportions d'un grief. Et même amoureux, cela les dégoûte bientôt de tout corps affligé de cette infirmité. C'est pourquoi l'idée vint à Évariste, l'idée étrange et cependant naturelle, de les humilier à son tour, de leur montrer, de leur prouver qu'ils étaient au fond des êtres de chair et d'os comme lui et comme tout le monde, et que, sous les dehors de leurs belles phrases, plus ou moins redondantes, mais aussi creuses qu'idéales, se cachait l'essence purement humain d'une passion très banale, et que ce n'était pas la peine de le prendre de si haut avec les choses terrestres, quand, après tout, on ne t'en faisait fi qu'en parole. Il se mit donc, sans trop se rendre compte de la vilainie compassée d'un tel procédé, à leur tendre des pièges, à les laisser seuls au jardin, par exemple, alors qu'il les observait de loin, munis d'une forte jumelle marine. Oh, certes, de le premier baiser, par exemple, il serait survenu, et leur eut en souriant fait constater leur hypocrite faiblesse. Malheureusement pour lui, Frédéric et Bénédicte ne donnèrent, en ces occasions, aucune prise à ses remontrances, ne réalisèrent pas son singulier espoir. Ils se parlèrent peu et se séparèrent bientôt, sans affectation, par simple convenance. Frédéric devant aller rendre service, rendre ses visites à des pauvres. Bénédicte lui remettait un peu d'or pour aider en ses futilités toutes féminines. De là, quelques paroles entre eux échangées. Évariste les trouvait au moins imbéciles. Le fait est qu'aux yeux d'un jeune homme ordinaire, de ce qu'on appelle un Parisien, Bénédicte eut passé pour un simple sot, et Frédéric pour une coquette s'amusant d'un provincial. Rien de plus. Cependant, le lien qui les unissait, pour vague qu'il fût, était positivement plus solide que si juste était coupable. Évariste, qui tout d'abord s'était épuisé en manifestations tendres pour Frédéric, la sentant comme s'échapper, avait renoncé à la lutte devant le dévoué sourire de sa femme. Il semblait n'en être plus à présent que le propriétaire. Une dédaigneuse aversion pour cette malheureuse insensée s'aigrissait dans son raisonnable cœur centre-gauche. Cette énigmatique passion que Bénédicte et Frédéric paraissaient l'éprouver que, sous condition perpétuelle d'un sublime futur, il finissait par le reconnaître pour la plus vive vase de toutes, pour l'indéracinable, celle sur quoi s'émoussent tous les sarcasmes. Il sonda le mal d'un coup d'œil. Le divorce était l'unique issue. Il fallait le rendre inévitable, le forcer. Car Frédéric, en bonne chrétienne, s'y fut refusé à l'aimable. Le divorce était défendu. L'indifférente indigne résignation qu'elle avait mise à supporter les cauteleuses tendresses de son mari le prouvait d'avance, outre mesure, et celui-ci ne s'illusionnait pas à cet égard. En ses conjectures, le mieux d'en finir était le plus tôt, la situation devenant intolérable. L'épisode avait duré 5 semaines. C'était trop. Il en avait par-dessus les oreilles. Ayant négligé, à force de soucis, ses lotions normales de teinture, sa barbe et ses cheveux étaient devenus réellement gris. Il fallait agir sans le moindre retard, car l'excellent homme comptait se marier à toute hâte, aussitôt, s'il se pouvait, après le prononcé du tribunal. Soudainement, il annonça donc le prochain retour à Paris, et simula, comme dans les romans et pièces de théâtre les plus rudimentaires, un départ de 2 ou 3 jours. Il allait, disait-il, jeter un coup d'œil sur l'état de son hôtel en avenue des Ternes. M. Rousseau-Latouche avait tout justement pour ami d'enfance, non point le commissaire de police de Sceaux, mais un commissaire de police des environs qu'il avait fait nommer à ce poste. Il alla donc le trouver et s'ouvrit à lui, ne lui faisant rien, lui précisant les choses telles qu'elles étaient, avec une clarté d'élocution dont il manquait à la chambre, mais qu'il trouvait quand il s'agissait d'élucider ses affaires personnelles. Tout fut raconté à dîner, en tête à tête. Il fallut du temps, quelques heures, pour que le commissaire se rendît un compte exact de la situation, qu'il finit par entrevoir à la longue, grâce à la sagacité spéciale qui est inhérente à cette profession. On arriva donc en tapinois le lendemain du départ, afin de ne rien brusquer, d'endormir tout soupçon. 2 heures après le dernier train du soir, on pénétra dans la maison grâce aux clés doubles d'Évariste, dont toutes les mesures étaient prises. Il faisait une nuit d'automne superbe, douce, bien étoilée. On monta l'escalier sans faire le moindre bruit. Il était près 1 heure du matin. Le point capital était de les surprendre, comme on dit « flagrante delicto ». La porte du salon n'était pas fermée. On parlait à l'intérieur. Le commissaire, avec des précautions externes, extrêmes, ouvrit sans que la ceinture grinçât. Quel spectacle écœurant s'offrit à leurs yeux hagards. Les deux amants, le dos tourné à la porte, et chacun les mains jointes sur le balcon d'une fenêtre ouverte, aussi bien vêtus qu'en plein midi, contemplaient l'un vers l'autre l'auguste nuit de lumière, avec des regards d'espérance, et récitaient ensemble à l'unisson leur prière du soir, d'une voix lente, mais dont la terrible simplicité d'accent semblait devoir glacer le sourire des gens les plus éclairés. À ce tableau, M. Rousseau-Latouche demeura comme saisi d'une sorte d'hébétement grave. Sur le moment, il eut même comme un vertige, craignit pour sa raison. Son ami, le froid commissaire de police, reçut entre ses bras cet homme d'état chancelant, et d'un ton de commisération profonde lui dit alors, naïvement, à l'oreille, ce peu de mots, pauvre ami, pas même trompé. La légende nous affirme, hâtons-nous de l'ajouter, qui se servit d'une expression plus technique, chère à Molière. Le fait est que, pour l'honorable M. Rousseau-Latouche, ça avait été joué de malheur d'être tombé sur deux êtres aussi intraitables.